Vous écoutez
RMC.
Nous sommes le dimanche 19 mai. Bon réveil à tous.
Il est 6h30, vous êtes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure d'un journal avec vous, Martin Bourdin, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Anaïs, bonjour à tous. On ira à Nouméa dès le début de ce journal. La peur des habitants face aux émeutes qui touchent la Nouvelle-Calédonie. Depuis bientôt une semaine, ce matin, des centaines de gendarmes sont mobilisés pour débloquer l'accès à l'aéroport. Un braquage éclair en pleine journée hier sur la célèbre avenue Montaigne à Paris. Les braqueurs sont toujours recherchés ce matin. Et puis la dernière journée de Ligue 1 ce soir, Marseille veut croire à son destin européen pour offrir une belle sortie à son entraîneur Jean-Louis Gasset qui dirige ce soir le dernier match de sa carrière.
D'abord donc, une opération d'ampleur est donc menée actuellement en Nouvelle-Calédonie.
600 gendarmes mobilisés pour reprendre la route entre Nouméa et l'aéroport de Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'a annoncé tard hier soir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Des centaines de poches de sang ont aussi été envoyées aux hôpitaux de Nouvelle-Calédonie, a annoncé le gouvernement hier. Et si ce matin, les autorités locales évoquent une nuit plus calme que les précédentes, les habitants sur place continuent de se barricader pour protéger leur maison. Reportage de notre correspondant à Nouméa, Nicolas Legrand.
Une grande porte de fer bloque l'accès de ce quartier résidentiel de Nouméa. Derrière, des hommes et des femmes qui protègent leur maison à l'image de Tony, un père de famille calédonien.
Tout le monde a très peur qu'entre deux insultes racistes, il y a « on va venir brûler vos maisons, on va foutre l'économie à terre, dégager de là, sale blanc ».
Ok, SUV noir, 4 personnes à l'intérieur, non cagoulées.
Des vigiles, des drones pour observer le barrage des émeutiers à 100 mètres de là, quelques cailloux pour se défendre et surtout des barricades de fortune.
C'est des genres des frigos, des planches pour éviter de se faire déborder. On a disposé un peu des pierres pour éviter les voitures béliers.
Depuis lundi, Tony, qui était enfant pendant les événements de 1984, est en état de sidération.
Du jour au lendemain, on se retrouve comme ça dans une situation de guerre civile. Les gens, ils montent sur vous pour vous tuer, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Où elle est passée, la Calédonie, quoi.
Tony nous assure qu'il n'y a pas d'armes sur son barrage, mais à chaque nuit de garde, il craint pour sa vie.
On ne sait jamais s'il n'y a pas un tireur en face qui est planqué. On ne sait jamais si une voiture ne va pas débouler sur notre barrage pour nous dégommer. C'est la psychose, quoi.
En Nouvelle-Calédonie, l'État estime que 130 000 armes à feu sont en circulation pour seulement 270 000 habitants.
Et notez ce rendez-vous tout à l'heure à 8h40. La maire de Nouméa, Sonia Lagarde, sera notre invitée sur RMC pour faire un point complet sur la situation ce matin en Nouvelle-Calédonie. La décrue a commencé en Moselle. Le département placé en vigilance rouge hier est repassé en orange depuis hier soir. Vigilance orange également dans le département voisin du Bas-Rhin. Hier soir, 130 personnes avaient été évacuées de manière préventive en Moselle. Des orages sont attendus aujourd'hui dans l'est de la France. C'est l'une des avenues les plus célèbres de Paris. L'avenue Montaigne, en partie bouclée une bonne partie de l'après-midi hier, après le braquage d'une bijouterie de luxe, tout est allé extrêmement vite, Anaïo.
Moins de 3 minutes, c'est le temps qu'aurait duré ce braquage, d'après des témoins présents aux abords de la Seine. Selon leur récit, deux motos arrivent devant la bijouterie, l'une d'elles fonce sur la porte d'entrée pour tenter de la faire plier. Pendant ce temps, un homme habillé tout en noir, casque sur la tête, monte la garde devant la boutique, armé d'une kalachnikov. Les trois hommes ont ensuite pris la fuite et très vite, la police est arrivée sur les lieux. À l'intérieur de l'enseigne Harry Winston, aucun blessé, mais le personnel en état de choc. À travers l'entrée de la boutique, hier après-midi, on apercevait encore le sol jonché d'éclats de verre et quelques vitrines brisées. La police judiciaire est restée sur place pendant de longues heures et le périmètre de sécurité n'a été levé que tard dans la soirée. On ignore encore le montant exact du butin, mais il se chiffrerait à plusieurs millions d'euros.
RMC 6h33, dernier rendez-vous de la saison en Ligue 1 de football.
Et oui, 34e et dernière journée de championnat ce soir. 10 matchs à suivre en multiplex à partir de 21h. Vous pourrez évidemment suivre tout ça en direct sur RMC tout à l'heure avec comme principal enjeu la course à l'Europe. Voilà à quoi vont se raccrocher les supporters marseillais ce soir. Marseille 8e ce matin au classement pour être européen la saison prochaine. Marseille va devoir s'imposer et espérer que Lyon ou Lens chute. Motivation supplémentaire pour les joueurs. Une victoire offrirait une belle sortie à leur coach Jean-Louis Gasset qui prendra sa retraite après la rencontre. Florent Germain.
Oui, une saison pénible pour l'OM, mais qui se termine sur une émotion, le dernier match de l'entraîneur Jean-Louis Gasset sur un banc de touche.
Que je reste dans le football, on se serve de bonne expérience, c'est une possibilité parce que je ne sais pas jardiner. Autant que je donne mon temps aux choses que je maîtrise, mais entraîneur, c'est terminé.
Gasset n'oubliera jamais les frissons que lui ont procuré notamment le Stade Vélodrome.
Le match de Villarreal. où on a fait le match parfait. Tous les entraîneurs rêvent de faire un match comme ça. Le petit plus, c'est la série de pénalty contre Benfica, où c'est des images qu'on regarde, cette communion des joueurs avec le public, ça restera gravé à jamais dans ma mémoire.
Il faudrait un miracle pour que l'OM retrouve l'Europe la saison prochaine, une victoire au Havre ce soir, et dans le même temps, une défaite de Lens ou de Lyon. Jean-Louis Gasset ose y croire un tout petit peu.
Tout est possible, tout c'est de jouer la chance à fond, même s'il reste 1% de chance. Il faut gagner ce dernier match et je veux gagner ce dernier match.
Voilà, Marseille et Jean-Louis Gasset donc au Havre. Ce soir, Lens reçoit de son côté Montpellier et Lyon accueille Strasbourg. En rugby, La Rochelle n'a pas brillé mais s'est replacée. Hier soir, les Rochelais ont battu Pau 25-23 et remontent à la 5e place du top 14. Aujourd'hui, place au choc de cette 24e journée. Le Stade français accueille l'Union Bordeaux-Bègles ce soir à Jambon à partir de 21h05. Le 2e contre le 3e et peut-être un énorme coup à faire pour des Bordelais qui restent sur 3 victoires de suite. Et qui rêve très grand, Nicolas Paul Orsi.
Oui, cette année pourrait bien être la bonne pour Bordeaux. Cette pensée résonne dans la tête des supporters de l'UBB, Nicolas Deporter, trois quarts centre.
Beaucoup de gens nous en parlent, que c'est notre année.
À Paris, l'UBB dispute un vrai huitième de finale pour terminer aux deux premières places. L'ailier Louis Bielbiaret.
On sait que maintenant, on est prêt pour ces matchs-là qui vont être des matchs de phase finale.
Le manager Yannick Bru est conscient des attentes, mais préfère rester prudent.
On a été un peu mis en avant, mais voilà, on garde quand même les pieds sur terre par rapport au chantier qui nous reste à terminer. Pour être au niveau des meilleurs, parce qu'on cherche à s'inviter à cette table, clairement.
Surtout que Bordeaux peut parfois manquer de régularité.
On n'a pas encore cette maturité, comme certaines équipes, pour être régulier dans la performance, quelle que soit l'opposition.
Depuis le début de saison, l'UBB n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est dos au mur. Elle va devoir une nouvelle fois le prouver contre le Stade français.
Stade français UBB, c'est donc ce soir à 21h05 en direct sur RMC. Évidemment, le vainqueur se rapprochera un peu du leader, Toulouse, qui s'est imposé hier à Montpellier, 29-22. Montpellier qui tremble. Le MHR devra passer par le barrage pour espérer rester en top 14 la saison prochaine. Et puis j'en connais certains qui vont se réveiller ce matin un peu plus intelligents qu'hier matin parce qu'ils sont allés au musée cette nuit gratuitement. C'était la 20e édition de la Nuit des musées. 3000 musées ouverts partout en Europe. Et celle qui en a profité, eh bien, c'est notre reporter Margot Boult. Elle est allée visiter la Monnaie de Paris pour RMC.
Il faut se faufiler entre les groupes pour aller de pièce en pièce.
On va dans la salle 5 là.
Il y a beaucoup de monde.
Et donc c'est vrai qu'on a du mal un peu à se repérer.
Léo, 26 ans, est venu visiter le musée de nuit avec ses amis Nivetta et Lilian. Au premier étage, il découvre les anciens outils qui servaient à fabriquer la monnaie.
Il y a des grosses presses. C'est pas facile à décrire.
Ça ressemble à un tire-bouchon de bouteille.
C'est très grand, ça fait 1 mètre de large à peu près.
La visite est interactive.
Il y a un jeu là, on va aller voir.
Après avoir attendu derrière une famille, les trois étudiants peuvent s'entraîner à frapper une pièce de monnaie.
Il faut être du coup centré. Inclinaison et centré, ouais.
88%. Ah, plus de force que le monsieur.
Un peu plus loin, une autre activité.
Une dame qui fait des dessins de gravure.
La soirée est un succès, se réjouit Marc Schwartz, président de la Monnaie de Paris.
Assez plein, on n'a jamais eu autant de monde à la Monnaie de Paris. C'est un événement extraordinaire, c'est populaire, c'est joyeux, c'est animé. On est très contents, je pense qu'on est bien parti pour battre un record cette année.
Lors de la nuit des musées de l'année dernière, la Monnaie avait accueilli 3500 visiteurs.
Et puis cette année, il y a peut-être une raison de plus d'aller à la Monnaie de Paris pour cette nuit des musées, puisque c'est là-bas que sont créées les médailles olympiques pour les JO qui arrivent.
Mais oui, bien sûr.
69 jours les JO.
Ouais, nous, ce qu'on veut surtout, c'est y en avoir beaucoup. Que nos athlètes en aient beaucoup.
Exactement.
Merci beaucoup, Martin. Il est 6h38. Vous écoutez RMC, c'est l'heure des courses.
Le dernier bruit de cheval sur lequel il faut miser.
Avec la Dream Team des courses RMC. Bonjour, Dimitri Blanc-L'Œil.
Bonjour, Anaïs. Bonjour à tous.
Un événement à Auteuil aujourd'hui.
Ah oui, et pas n'importe lequel. C'est le grand steeplechase de Paris qui va se courir aujourd'hui. Voilà, c'est une épreuve incroyable. Je vais vous parler des conditions rapidement. Hein.
Bah justement,
Anaïs,
oui.
Avec une épreuve sur 6000 mètres. Voilà, 6 kilomètres de distance. Ils sont 14 voilà, concurrents à s'affronter dans cette épreuve. Et c'est un départ à 16h05. Attention, hein, les horaires sont un peu modifiés par rapport à d'habitude.
16h05, c'est bien noté. Votre favori ?
Bon, c'est difficile hein, de se prononcer. C'est une magnifique épreuve. On a un peu de pression. Voilà, dans cette course, je vais aller sur le numéro 6, Grandeur Nature. C'est un cheval qui a gagné notamment le prix Laë Jousselin, c'était en novembre dernier, qui fait partie des épreuves du calendrier où la distance est très longue. Donc l'aptitude, on va dire, il l'a. Il a déjà battu beaucoup d'adversaires qu'il retrouve aujourd'hui. Franchement, je serais déçu de ne pas le voir jouer les premiers rôles.
Donc le numéro 6, c'est un second choix ?
Bah, il a un adversaire un peu voilà, c'est écrit un petit peu hein, ça sera sûrement les deux favoris, j'invente pas grand-chose, mais c'est Rontos Ganamos au numéro 14. Lui c'est bien simple, il enchaîne les victoires, il a eu deux petites contre-performances où malheureusement ça s'est pas bien passé, mais sinon il gagne quasiment tout le temps. C'est vrai qu'on ne connaît pas ses limites. La seule interrogation par rapport au numéro 6 Grandeur Nature, c'est que lui va découvrir une grande distance comme celle-ci. Donc c'est voilà, c'est la seule chose qu'on pourrait retenir, sinon évidemment qu'il va jouer la victoire.
Merci Dimitri Blanc, tous les pronostics sont à retrouver sur rmc.fr.
6h40 et on se réveille évidemment avec vous au 32-16. Et le premier
à nous appeler, c'est Pierre, notre poissonnier fidèle. Bonjour Pierre.
Bonjour Anaïs, comment ça va et toute l'équipe?
Ça va et vous?
Eh ben moi ça va, impeccable.
Déjà bon sur bonjour. Le marché?
Ah ouais, c'est parti.
C'est vrai? Alors racontez-nous, depuis combien de temps vous êtes levé? Ça commence quand le marché?
Alors, moi, je me suis...
Vous êtes à Malakoff, c'est ça, Pierre? Je me souviens plus. Oui, c'est ça. Oui.
Exact. Aujourd'hui, c'était une grasse matinée. C'était 4 heures du matin seulement.
Oh, parce que d'habitude, c'est quelle heure?
Les autres jours, c'est minuit et demi.
Ah ouais. Oh, ah oui, je pensais pas que vous vous réveilliez aussi tôt.
Il y en a, Peggy, qui ont une vie encore plus difficile que la nôtre.
Oui, c'est ça. Finalement, 4 heures du mat. Oui, c'est pas mal quand on voit que vous vous réveillez tous les jours à minuit et demi. Et alors, pourquoi? Parce que comment vous vous organisez? Qu'est-ce que vous faites
alors,
à ce moment-là?
Alors, à minuit et demi, je me lève pour aller à Rungis, parce que ça ouvre à 2h, le bâtiment pour le poisson. On charge la cam et tout ça, et après, on vient sur le marché. Et après, je repars sur Rungis, déposer le camion, et je repars chez moi. Ça me fait des journées de... Allez, 12 heures à peu près.
Oh, c'est énorme. Ah, c'est énorme.
Vraiment et... aimer ce métier, être passionné.
Oui, 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 je pense que c'est le cas. C'est une passion pour vous, Pierre.
Ah, là, je dis franchement, là, je changerai pour rien au monde. Et pourtant, j'ai 53 ans, mais bon, je... D'où ça fait 36 ans que je fais ça et je changerai pour rien.
C'est l'amour du métier.
Vous bossez demain, jour férié, vous bossez ou pas demain?
Ah non, demain je travaille pas pour les autres.
Ah.
Je reste
vous travaillez pour vous?
Ouais. Travaillez pour moi.
Mais vous vous reposez quand c'est comme ça, rassurez-moi.
Ouais, je vais me reposer surtout ouais le matin, mais bon, je me lève toujours à 6-7 heures, c'est
ah oui, c'est une grosse grasse mat pour vous.
Ouais, énorme.
Bah quand tu te lèves à minuit, j'en veux dire, 7 heures, c'est wouh, c'est la fête. Ouais,
puis je vais profiter un peu avec mes enfants quand même.
Bah vous avez bien raison, vous avez bien raison Pierre.
Un peu la vie de famille aussi, c'est important.
Bah évidemment que c'est important, c'est le plus important même, j'ai envie de dire.
Exactement.
Même si c'est important de se dire ouais voilà, je me lève parce que je vais au boulot, parce que Je fais un métier passion. On n'a pas tous la chance aussi de faire un métier passion. Faut le dire. Vous avez cette chance, Pierre, et c'est aussi pour ça que vous avez, j'imagine, un peu moins de mal à vous le réveiller le matin. On est ravis de vous avoir, en tout cas, aussi régulièrement sur RMC. Pierre, fidèle parmi les fidèles. Il est 6h42.
Et on va saluer.
À suivre dans la matinale week-end.
On salue qui? Nos auditeurs, parce qu'ils sont déjà tous là.
Alors,
ils sont réveillés sur l'appli direct studio. Stéphane, Jamel. On a également Raph qui est là et qui nous salue. Xavier, merci d'être là dès ce matin.
Dans 5 minutes, on va parler immobilier avec Marie Cœur de Roy qui a une mauvaise nouvelle, Peggy, pour ceux qui espéraient toucher le jackpot en louant leur logement pendant les Jeux Olympiques.
Et oui, finalement, ce sera peut-être pas la folie. Les prix des locations saisonnières reculent. Alors, doit-on abandonner l'idée de mettre son logement en location saisonnière pour les JO? Réponse dans le coup de main IMO d'ici quelques minutes.
D'abord, on va ouvrir la presse avec toute l'équipe, les histoires du week-end dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez les bienvenus sur RMC, 6h44.
RMC.
Les histoires du week-end.
Tout le monde autour de la table pour vous réveiller dans la bonne humeur, ce qui vous fait rire ou vous révolte dans la presse du jour. Peggy est là. Martin Bourdin est toujours là. Et Kevin Gasser nous a rejoint.
Bonjour Anaïs,
Kevin.
Bonjour tout le monde.
Alors, on va commencer par, vous Peggy, un collégien astucieux invente un faux radar.
Oui, il n'a que 12 ans, il s'appelle Mathis, originaire de Dordogne, et il ne supporte plus de voir passer les voitures à toute vitesse devant chez lui. Alors il a pris les choses en main et a disposé un faux radar pour inciter les automobilistes à ralentir à l'entrée de la commune Cours de Pile, près de Bergerac. Alors vous allez me dire, mais comment il
comment
s'y est pris?
Comment on fait?
C'est exactement ce que je me suis posé comme question. Eh bien, il a acheté dans une recyclerie un déguisement de radar, vous voyez, une espèce de cube en tissu qu'on enfile par la tête et qu'il a mis sur une poubelle en plastique et qu'il a déposé devant chez lui. Alors l'histoire ne dit pas si les automobilistes y ont cru et s'ils ont ralenti.
Ah oui, j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est de savoir si ça a marché ou pas.
Oui, mais... alors je sais pas, mais bon, en même temps, quand on conduit, on va, et surtout ceux qui vont vite, peut-être qu'en voyant quelque chose au loin, ils ralentissent. Sait-on jamais, mais surtout à son âge, c'était plutôt astucieux. Sa mère a expliqué en fait que Mathis a toujours plein d'idées, qu'il est bricoleur et qu'il est souvent dans le jardin avec son vélo et qu'il supporte pas de voir les voitures passer aussi vite. Et donc, à seulement 12 ans, il est déjà responsable. C'est une très bonne chose. Mm-hmm. Donc, j'imagine que quand il passera son permis, il n'y aura pas d'excès de vitesse. Hein. Bah, en tout cas, je pense. Pour info, quand même, on rappelle que c'est interdit, évidemment, de mettre des faux radars. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le département, mais le maire de la commune reconnaît la problématique de la vitesse et il a d'ailleurs déjà réclamé plus de contrôle sur cet axe qui est limité à 70 km/h. Et il a trouvé la démarche bon enfant venant d'un jeune de 12 ans.
Et j'en profite pour vous dire de faire attention sur la route parce que ce que vous risquez de croiser, ce seront certainement des vrais radars.
Oui, c'est sûr.
Un peu plus que voilà.
Kevin, dans le beurre et l'argent du beurre, à tout à l'heure à 9h10 avec Perico Légas, on va parler de poulet, le plat préféré des Français qui ne l'est peut-être plus pour ce jeune footballeur.
Oui, on va dans le nord, à Caudry. Ça s'est passé le week-end dernier après un match de foot. Lucas va manger dans un restaurant d'une grande chaîne de fast-food avec son équipe de Maroilles, la commune. Alors, il commande un sandwich wrap au poulet pané et au moment du premier croc, alors c'est pas la panure qui croustille sous sa dent, mais un escargot.
Oh,
alors il a dit, allez, c'était bien visqueux, il y avait même la coquille, le jeune footballeur à nos
confrères. C'est ça qu'il croit, a priori, c'est
ça. Ça que... On pourrait aussi croire que c'est peut-être la viscosité de l'escargot qui est un peu séché comme ça entre le pané, le poulet pané et la salade. Et donc, il a pris en photo le mollusque encore dans son sandwich pour la partager sur ses réseaux sociaux. Et ils se font bien dans le décor, hein, recouverts de sauce, donc entre la salade et le poulet. Et au moment de cette découverte, Lucas prévient immédiatement les serveurs du restaurant. Ouais. Dédommagement, une petite glace, sans excuse.
Une petite glace alors qu'il y a un escargot dans son wrap.
Et c'est pour ça qu'il a décidé de dénoncer, de partager publiquement ce qui lui était arrivé. Et résultat...
En même temps, ça prouve peut-être que la salade est fraîche.
Et voilà, c'est ça.
Mais pas lavée.
Quelqu'un directement
du jardin.
Poussé le matin même. Et le directeur du fast-food a réagi. Un processus de traçabilité a quand même été ouvert pour déterminer l'origine du problème. Et le jeune devrait se voir proposer bientôt des offres commerciales. Mmh. Donc peut-être plus qu'une petite glace.
Bah, on l'espère. On va suivre
un mac escargot.
Martin, on parle beaucoup ces derniers temps de congé menstruel, de congé parental. En Chine, une entreprise vient d'inventer le congé malheur. Qu'est-ce que c'est que ça?
Désolé, je plombe un peu l'ambiance. J'arrive. Un peu de plombage d'ambiance. Congé et malheur, en général, ça va pas vraiment ensemble. Alors, je vais vous expliquer. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé, une accumulation de mauvaises nouvelles, un jour où on n'a pas un gros moral, on a un gros coup de moins bien, au point de ne pas avoir envie d'aller au travail, pas avoir envie de croiser des collègues, même si on s'entend bien avec eux et qu'ils sont tous géniaux. Mm-hmm. Ce problème, il ne se posera plus, ou en tout cas beaucoup moins, pour les employés d'une chaîne de supermarchés dans l'est de la Chine. Le patron a effectivement créé ce congé malheur, 10 jours par an, que les salariés pourront prendre quand ils ne se sentent pas heureux. Des congés que les managers ne pourront pas refuser. L'objectif, c'était évidemment...
Ah non, mais on ne doit pas justifier d'un événement qui vous est arrivé. Genre
non, il n'y a pas de justification à donner. On n'est pas bien, je suis déprimé, je ne suis pas heureux, je n'ai pas envie de venir, je n'ai pas envie de vous croiser.
Moi, je peux le vous dire manager... que j'utilise tout mon congé malheur.
10 jours par an, c'est quand même pas mal.
Bah oui,
c'est la moitié presque des congés normaux en France.
Et derrière ça, il y a évidemment une idée, hein, c'est que non seulement ça aide les employés à se sentir mieux, ça les aide à être en forme et ça les aide aussi à être motivé quand ils viennent au boulot.
La productivité.
Et donc ça profite non seulement aux salariés, mais ça profite aussi à l'entreprise, car des salariés plus heureux travaillent mieux.
Évidemment, et des salariés heureux, il y en a beaucoup autour de la table.
Je ne sais pas si on travaille bien, mais on est heureux.
Voilà, exactement. Et on espère que vous l'êtes aussi à l'écoute d'RMC. On est là pour ça aussi, pour vous embellir un petit peu la journée. Et c'est pour ça qu'on en profite pour vous passer cette magnifique musique qu'on adore. Hein, Peggy, vous avez dansé sur ça hier soir,
évidemment,
avec vos copines.
Voilà, c'est pour ça que je suis pas en forme ce matin.
Pas droit à un congé malheur, Peggy, ça marche pas.
Désolée, je sais.
Il est 6h50.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
On pourrait être en karaoké. Je suis sûre que je pourrais la faire. Chimène Badi, vous l'avez certainement reconnue. Elle va proposer un nouvel album de reprise en novembre prochain. Et Peggy, vous allez nous en parler dans deux minutes.
Mais d'abord,
RMC,
Le coup de main IMO.
Avec Marie Cœur de Roy, toutes les questions IMO que vous vous posez.
Bonjour Marie.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
On reparle ce matin des Jeux Olympiques. On est à presque deux mois du coup d'envoi. Et plus l'échéance approche, plus les propriétaires qui rêvaient d'un jackpot déchantent. Selon les dernières données récupérées par nos équipes web, les prix des locations saisonnières baissent inexorablement.
Mais oui, alors qu'on flirtait encore en janvier avec les 620 euros la nuit à Paris pendant les JO, on est désormais à peine à 500 euros en moyenne. En banlieue, on est même retombé sous les 300 euros la nuit. Alors les chiffres de RDNA, c'est le spécialiste de l'analyse statistique de la location saisonnière, ils ont de quoi décevoir les propriétaires. Des prix décevants, mais aussi un taux d'occupation nettement en dessous de ce qu'ils espéraient. Toujours selon RDNA, à Paris, on est à 28% de taux d'occupation pour les semaines de Jeux Olympiques contre 24% à la même période de l'année dernière.
C'est pas si fou.
Ben non, c'est un écart hyper limité. L'effet JO, il est quand même un petit peu plus visible en banlieue parisienne avec un taux d'occupation qui dépasse légèrement les 30% sur la période. Enfin bon, vous l'aurez compris, à date, une immense majorité des logements dispo en location saisonnière seront plus vides que pleins pendant les Jeux Olympiques.
Mais comment c'est possible? On manque de touristes, de visiteurs?
Ouais, non, c'est pas du tout le manque d'intérêt pour l'événement qui est en question, c'est surtout l'attitude des loueurs. Sur les prix d'abord, beaucoup ont eu les yeux plus gros que le ventre. Les spécialistes de la loc saisonnière Likibu et Livango, ils ont constaté eux aussi des prix affichés complètement décorrélés de la réalité du marché. En novembre dernier, on était au-delà des 700 euros la nuit en moyenne à Paris. C'est
folie,
dingue.
Folie.
Non, mais c'est dingue. Sauf que ce qui a été réellement réservé, bah, ce sont des logements qui oscillent plutôt autour de 400 euros la nuit. Les loueurs les plus gourmands ont aussi oublié que l'élément clé d'une règle de marché, c'est pas juste la demande, c'est aussi l'offre. Et l'offre, elle a explosé parce qu'on a beaucoup de propriétaires qui étaient peu habitués à la location saisonnière, qui ont mis leurs biens sur le marché. Comptez par exemple plus de 108 000 logements disponibles pendant les JO en Ile-de-France. Et ça, c'est 70% de plus qu'à la même période il y a un an. Voilà ce qui explique à la fois la hausse plus faible qu'espérée des prix, mais aussi un taux d'occupation finalement limité, tout simplement parce que bah, les visiteurs, ils ont l'embarras du choix.
Du coup, si j'espérais louer mon logement pendant les JO, je laisse tomber?
Mais non, pas forcément Anaïs.
Non, mais je dis ça.
Mais hein. Non,
je vais bosser pendant les JO, donc faut bien me loger moi-même.
Moi, je suis pas propriétaire, je m'en fiche. Alors la première chose à faire, c'est déjà d'être raisonnable sur le prix. Dans les très grandes villes hautes, abandonnez l'idée de pouvoir faire x5 par rapport à d'habitude. À Paris, Lille, Marseille et Lyon, les hausses de prix des logements qui se réservent vraiment, elles vont de plus 30 à plus 80%, pas davantage, et c'est déjà pas mal hein, quand même. C'est en périphérie de Paris et de Lille que vous pouvez en réalité faire le plus augmenter vos prix. Nanterre, Villeneuve-d'Ascq, Saint-Denis ou encore Montigny-le-Bretonneux, ici les tarifs par nuit déjà réservés sont en moyenne 2 à 3 fois plus élevés pendant les JO qu'à la même période l'an dernier. Donc premier conseil, ajustez vos prix. Le deuxième, soyez patient, bon sang. Beaucoup de visiteurs n'ont pas encore réservé. RDNA rappelle que l'an dernier, seul un tiers des séjours parisiens étaient réservés plus de deux mois à l'avance. Alors certes, pour les JO, les voyageurs s'y prennent un petit peu plus tôt. Mais tous les observateurs en sont convaincus. De nombreux visiteurs vont se positionner ces prochaines semaines.
Merci Marie. Le coup de main IMO à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
Et puisqu'on parle des Jeux Olympiques, restez bien avec nous parce qu'à 7h40, on recevra Thierry Véron, président de la Fédération des associations des commerçants et artisans de Paris, pour parler de ce guide Do You Speak Tourist spécial JO que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France est en train de distribuer aux commerçants avec des conseils pour se montrer aimables, enthousiastes pendant les Jeux. Qu'est-ce qu'ils en disent, les commerçants? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que les commerçants parisiens ne sont pas assez accueillants? Rendez-vous 7h40. C'est l'heure du bonus?
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec vous, Peggy et Chimène Badi qui travaillent sur un nouveau projet.
Et oui, souvenez-vous, la chanteuse a célébré ses 20 ans de carrière l'année dernière avec un album de reprise d'Edith Piaf.
Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre.
Là, j'avais oublié, mais c'est pas mal.
Ah ouais, c'était très bien. Et vendredi, elle a dévoilé le premier titre d'un album qui sortira en novembre de cette année. Album de reprise. Alors, c'est pas la première fois que Chimène Badi revisite des titres. Souvenez-vous, en 2011, elle avait sorti l'album Gospel and Soul, des reprises de standards américains et français, avec la chorale Liberty Gospel, dont un titre en duo avec Billy Paul, s'il vous plaît. Ain't Ain't No Mountain High Enough, un titre de Marvin Gaye à l'origine. L'album sera donc la suite de celui-ci. Il s'appellera Gospel and Soul, La Voix et l'Âme, avec des reprises de titres de Céline Dion, d'Amy Winehouse, de Michael Jackson, mais aussi des chansons inédites écrites et composées par Icard ou Tété, et une reprise de
Plus jamais des adieux, rien que tes jours, au revoir.
Exactement. Johnny Hallyday, avec qui elle a déjà eu la chance de partager la scène. Et le premier titre dévoilé pour cet album, c'est
Noir, c'est noir.
Il n'y a plus d'espoir. Ah, non. Oui, c'est pas cette partie-là, mais c'est Il n'y a plus d'espoir, c'est vrai. Noir, c'est noir, sorti en 1966. Je sais pas si vous savez que c'était déjà une adaptation française,
non, est sortie,
du titre Black is Black du groupe Los Bravos. L'album Gospel and Soul sortira en novembre prochain et notez déjà que Chimène Badi sera en concert au Grand Rex à Paris le 4 mars 2025.
C'est noté, rendez-vous dans un instant pour la météo, suivi du journal. Bon réveil sur RMC.
La matinale week-end.